Chapitre 10. Où l'on voit que Chattecoq, tel un chat, sait toujours retomber sur ses pattes. Dans le vaste éclair studio situé au rez-de-chaussée de sa villa, et qui ressemblait beaucoup plus à un cabinet de travail d'un homme de lettres qu'à celui d'un détective privé, Chattecoq, tout en souriant avec une malicieuse finesse, lisait ou plutôt relisait le billet anonyme que M. Avrier venait de lui apporter au moment où il allait commencer, dans le véritable cabinet de toilette laboratoire attenant à son studio, à se camoufler en industriel anglais. Reposant le papier sur la table et dirigeant son regard vers le père de Martine, visiblement contrarié et même empoisonné par ce contretemps, il fit au plus vif étonnement de ce dernier « Oh, tout ceci est parfait. L'ennemi est moins fort que je le pensais. » Puisque dans cette lettre par laquelle il croit si naïvement nous intimider, il nous apporte au contraire la preuve matérielle qu'il a une oreille et un œil, ou plutôt deux yeux et deux oreilles ouverts dans votre maison. Cela, voyez-vous, monsieur Avrier, c'est énorme, énorme, comme dit notre grand Flaubert, immortel auteur de Madame Bovary et de l'éducation sentimentale. Décidément, songeait l'industriel, mais cet homme est formidable. Rien ne le décourage, ne le démonte, ne l'abat. On dirait au contraire que l'obstacle surexcite. En effet, le grand limier, avec un entrain de plus en plus vif, poursuivait. Alors, cet X ou ces Z mystérieux, je figure qu'ils vont me faire peur. Ils me connaissent bien mal. Quant à vous, monsieur, vous avez donné dans votre existence de capitaine d'industrie trop de preuves d'énergie et de vie dans votre regard, une trop grande ardente volonté d'aboutir. Pour ne pas... Quant à vous, monsieur, je bafouille. Quant à vous, monsieur, vous avez donné dans votre existence de capitaine d'industrie trop de preuves d'énergie, et je lis dans votre regard une trop ardente volonté d'aboutir, pour ne pas être déjà certain que, loin de renoncer à la lutte, vous entendez au contraire la continuer jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire finale. Florent Martelet. Oh, on serait mieux deviner et interpréter ma pensée. Nous sommes donc bien d'accord. Absolument. Et Chattecoq de s'exclamer joyeusement « All right !» comme disent les Anglais. « Mais pour l'instant, nous allons laisser la Grande-Bretagne tranquille. Il va falloir que je cherche un moyen de m'introduire chez vous autrement que sous les traits de votre collègue Robertson. Quant à Météor, je vais lui trouver un autre déguisement. » Quelques semaines, secondes de réflexion, vous permettez? Je vous en prie. Chattecoq allait s'isoler dans ses pensées lorsque tout à coup il fit. Oh, excusez-moi, monsieur Avrier, je ne vous ai pas demandé encore des nouvelles de votre fille. Elle va beaucoup mieux, répliquait Florent. Oui, elle est sortie de cet état cataleptique qui nous inquiétait fort. Et bien que très faible encore, elle a pu soutenir avec sa mère, son fiancé et moi, une conversation de quelques instants. Lui avez-vous parlé de moi? Non, je m'en suis autant plus gardé que vous aviez beaucoup insisté pour qu'en dehors du capitaine de Monthermé et moi, tous, y compris ma femme et ma fille, demeurassent dans l'ignorance de votre intervention. Parfait. Je me suis également abstenu de lui apprendre que l'innocent de Jacques Moret était reconnu. Le médecin m'a en effet recommandé de lui éviter toute émotion. C'est ce que j'ai fait. Moi, je m'en suis bien trouvé. Avant de venir vous voir, je suis resté remonté près d'elle. Elle dormait tranquillement. Son visage était complètement détendu. Son sang avait repris sa circulation normale. Ses joues ce matin si pâles se coloraient même d'un léger incarnat. Je me suis empressé de téléphoner cette bonne nouvelle à notre médecin, qui en a été tellement satisfait qu'aussitôt, ainsi que Martine, une heure auparavant, m'en avait manifesté le désir, il a contre-commandé la consultation qu'il devait avoir dans la soirée avec le professeur Sérillon. « Vous m'en voyez enchanté, cher monsieur, » déclarait le roi des détectives. « Oui, me voilà en effet rassuré de ce côté, » reprenait l'industriel. D'ailleurs, mon médecin me l'avait bien dit que Martine n'était pas en danger, et j'ai la plus grande confiance dans le docteur Ramet. Vous prononcez de ce nom, Chantecoq eut une exclamation joyeuse. Oh, par exemple, en voilà qui est amusant. Comment, le docteur Ramet est votre médecin? Mais oui, répliquait Avrier. Peut-être est-il aussi le vôtre. Mais il l'a été, il y a déjà un certain temps, répondit le limier qui précisa. C'était en janvier 1915. J'étais mobilisé comme capitaine d'infanterie. Je fus grièvement blessé, enfin passons. Cela n'a plus pour moi qu'un vague intérêt rétrospectif. Ce qui est curieux, c'est que je fus précisément soigné, et avec quelle intelligence, quel dévouement, par le docteur Ramet. Et que depuis ce moment, bien que doué d'une santé de fer, je n'ai plus eu jamais besoin de ses services. Nous sommes demeurés les meilleurs amis de la terre. L'industriel constatait. Voilà une rencontre pour le moins prévue. Mais dites providentiel, se réjouissait le limier. Car elle va me donner le moyen de pénétrer chez vous et d'y faire pénétrer mon secrétaire, sans que nous courions le risque de nous faire repérer par ce mystérieux Argus, qui est peut-être ni sans yeux ni sans oreilles, mais c'est du moins fort bien se servir des organes visuels et auditifs dont l'a gratifié la nature. Par exemple, ne pouvait s'empêcher de s'écrier Florent, je me demande comment. Et souriant à son tour, il prit un léger temps, puis il fit. « Bon, excusez-moi, monsieur Chantecoq, j'allais vous poser une question. »« Mais non, » rectifiait gaiement le détective. « Vous n'avez pas dit « je vous demande, mais je me demande. » Saisissez-vous la nuance. C'est vous et non moi que vous interrogez. Je n'ai rien à dire. » Puis, se levant, il fit cordialement. « Monsieur Avrier, disposez-vous d'un quart d'heure, mettons 20 minutes. »« Oui, certainement. Eh bien, veuillez m'attendre. Sur mon bureau, vous trouverez les journaux, des revues. Dans cette bibliothèque, vous pourrez choisir le livre qui vous plaira. » « J'ai dit 20 minutes, n'est-ce pas ? » Eh bien, je reviendrai vous dire au bout de 20 minutes... Comment je vais m'y prendre pour pénétrer chez vous avec mon secrétaire, et cela sans être reconnu par personne? Vous m'attendez? Si je vous attends, scanda l'industriel de plus en plus émerveillé par le brio du détective. Celui-ci s'enfuit par une petite porte. Demeuré seul, monsieur Avrier suivit le conseil que lui avait donné le détective, et prit au hasard un journal et en commença la lecture. Mais son esprit était ailleurs. Ses yeux ne parvenaient pas à se fixer sur les caractères d'imprimerie. Il se disait « Oh, maintenant j'en suis persuadé, Chantecoq ne va pas tarder à découvrir la vérité. Mais que vais-je apprendre? Ce complot est-il encore l'œuvre de ce Ducourou qui a déjà tenté de mettre le feu à mon usine et de faire sauter un de mes appareils? Quel est ce complice qui a réussi à s'introduire chez moi? » De nouveau, il passait en revue tout son personnel, depuis Philippe Potier jusqu'à la fille de cuisine. Dans la confiance si justifiée que lui inspirait chacun d'entre eux, il ne parvenait pas à fixer ses soupçons. Alors il se disait, oh, je suis ridicule de me faciliter le cerveau en des recherches aussi déprimantes qu'inutiles. Un autre s'en est chargé, et quel autre? Le mieux est de me tenir tranquille et d'attendre avec sérénité la suite des événements, qui vont pas tarder ailleurs à se précipiter. Mais malgré lui, Avrillé était toujours obsédé par cette question qui se posait sans cesse à son esprit, sous la forme d'un seul mot, d'une unique syllabe. Qui? La porte du studio s'ouvrait et un valet de chambre, qui avait conservé dans ses allures un je ne sais quoi de militaire, faisait pénétrer dans la pièce une femme d'un âge bien défini, qui était revêtue d'un costume d'infirmière. Elle était suivie par un monsieur d'une cinquantaine d'années, dont la vue arracha cette exclamation au père de Martine. Oh, comment c'est-vous, mon cher Ramet? Pour répondre, le nouvel arrivant attendit que le valet de chambre eût refermé la porte. Alors, s'avançant vers l'industriel, tandis que l'infirmière s'effaçait discrètement dans un des coins du studio, il fit: Alors, vous trouvez que je lui ressemble? Oh, comment, c'est vous, monsieur Shancock? S'exclamait Avrillé, qui avait reconnu la voix claire et bien timbrée du détective. Eh oui, c'est moi. Oh, c'est inouï. Alors, je n'ai pas trop mal pipé ce cher docteur. Mais c'est tout simplement ébouriffant de ressemblance. Les gestes, l'attitude, l'expression, mais c'est lui en chair et en os. J'en suis ravi. Et je crois que s'il se voyait en vous, il se dirait, c'est moi. Toujours modeste, le limier reprenait. Ramet est d'ailleurs très facile à copier. Plusieurs fois, je me suis amusé à lui faire des blagues. Un jour, je me suis présenté, camouflé ainsi à un de ses cours, en même temps que lui. Il était complètement affolé. Je suis deux! S'est-il écrié. Eh bien, pendant un moment, il me l'a avoué depuis, il a cru au dédoublement physique de sa personnalité. Mais le fait que c'est formidable, admirait l'industriel. Mais avec qui? Oh diable, j'allais vous poser encore une question. Inutile, j'ai deviné. Vous voudriez savoir qui m'a appris cet art si difficile du maquillage? Oh, cela, je puis vous répondre immédiatement. C'est l'un des plus grands acteurs qui ait jamais existé et qui était passé maître dans cet art si difficile, si délicat, d'adapter sa personnalité à celle des autres. Rappelez-vous ces sublimes créations de l'émigré, de la griffe, de Crinqueby, des cinq messieurs de Francfort, de Talleyrand, de Pasteur. Oh, Lucien Guitry, lui-même. C'était un de mes intimes amis. Il a bien voulu me donner des conseils. Et vous en avez profité de mon mieux. Ça se voit. Encore tous mes compliments. Bon, gardons les corbeilles de fleurs pour la fin de la pièce, plaisantait Shancock. Et rentrons en plein corps dans l'affaire. Et le grand détective, redevenu sérieux, demanda. Qui se trouve auprès de mademoiselle votre fille? Ma femme. Le docteur Ramet, en effet, a interdit à son chevet la présence de toute personne étrangère. Il a très bien fait à tout point de vue, approuvait le limier, et notamment au mien. Oh, voilà une décision qui va faciliter grandement ma tâche. Bon, maintenant, je vais vous dire comment nous allons procéder. Je vous prie, cher monsieur, dès que vous serez rentré chez vous, de faire courir dans votre maison le bruit que le docteur Ramet doit venir voir mademoiselle votre fille vers 19 h, accompagné de son infirmière qui doit remplacer madame Avrillé auprès de la malade. Oh, rien de plus facile. Alors, expliquait Shancock, une fois dans la maison, je me charge du reste. C'est entendu, affirmait l'industriel. Je vois que décidément vous êtes un homme de ressources. Peur de fait plusieurs tours dans mon sac. Puis, se retournant vers l'infirmière, qui fort discrètement était restée dans son coin, le roi des détectives ajouta: « Ah, au fait, j'avais oublié de vous présenter mon secrétaire. « Comment ? » s'écria l'industriel. « Mademoiselle, c'est Monsieur Météor ?»« Parfaitement. « Mais félicitations, reprenait le père de Martine. « Sans doute, vous aussi, monsieur, avez-vous pris des leçons de maquillage avec le regretté Lucien Guitry ?»« Non, monsieur, répondit la fausse infirmière avec son plus gracieux sourire. « C'est mon patron qui m'a fait travailler, et je suis trop heureux si j'ai réussi à profiter de ses excellentes leçons. »« Maintenant, reprenait Shancock, en attendant que nous nous rendions chez vous, cher monsieur, nous allons examiner, mon secrétaire et moi, le dossier que vous nous avez remis. Je vous demande également de conserver la lettre que vous m'avez apportée tout à l'heure. Bon, « Certainement, acquiesçait l'industriel, et il ajouta. Bien, je vous quitte, monsieur Shancock, et je rentre directement à la maison pour y préparer votre arrivée. Ben, il ne faudrait pas que vous vous rencontriez chez moi avec le docteur Ramey. Bon, tranquillisez-vous, déclarait le limier, j'en fais mon affaire. Florent serra la main du détective et celle de son secrétaire, puis il se retira, accompagné par le maître de la maison, jusqu'au seuil de la porte du studio. Quand il eut disparu, Shancock revint vers Météor et lui dit « Allons, tout va bien, je crois que nous allons découvrir chez cet excellent homme que M. Avrier, un de ses pots aux roses. » Il n'acheva pas, craignant sans doute d'en avoir dit trop long, car même avec son secrétaire, lorsqu'il était en action, il se gardait toujours de prononcer des paroles qu'il considérait comme inutiles et prématurées. Il s'en fut à son téléphone, demanda le numéro du docteur Ramey, et quand il l'eut obtenu, il lui dit « Ici Shancock, le docteur Ramey !»« Oui ?»« Oh, je vous demande pardon, mon cher, de vous déranger en pleine consultation. J'ai absolument besoin de vous voir le plus promptement possible. Est-ce que je puis passer chez vous entre 18 et 19 heures ?» « Mais bien entendu, merci et encore pardon. »« Voyons, reprenait Shancock. Bon, il est 17 heures, nous avons encore une bonne heure pour travailler, profitons-en. »« Ah, au fait, mon vieux météore, j'ai oublié de te donner un nom. »« Eh bien, tu t'appelleras Madame Constance. »« Tu seras veuve de guerre, sans enfant. » Et tu afficheras des sentiments très patriotiques. C'est très bien apporté dans la maison où nous allons. As-tu bien compris tout ce que je t'ai dit? Bien retenu tout? Oh oui, patron. Tu n'as pas d'explication à me demander. Mais je voudrais savoir autant que possible ce que je vais faire ce soir avec vous. Comment veux-tu que je te le dise, puisque je n'en sais rien moi-même? En effet, si je suis l'homme des préparations, je suis aussi celui de l'imprévu. Et je suis convaincu que cette nuit ne sera pas sans nous réserver quelques surprises. Aussi le mieux est-il de ne pas nous livrer à des pronostics ou à des calculs ou à des plans que les événements pourraient démentir. Occupons-nous maintenant de ce que l'on appelle les contingences, c'est-à-dire de ces lettres anonymes qui ont été évidemment écrites ou plutôt inspirées par un seul et même individu. Tu les as lues attentivement?
Oui, patron.
As-tu remarqué, soit dans leur rédaction, soit dans la façon dont elles ont été là tapées, quelques éléments dignes d'être retenus? Très fier d'être consulté par son maître, qui lui inspirait une admiration et un attachement sans bornes, Météor se gonfla les joues, ce qui signifiait qu'il se préparait à prononcer d'importantes paroles. En effet, il attaqua, tandis que Shancock bourrait consciencieusement sa pipe. Mais pas trop pour moi. Il n'y a pas d'erreur. Ces lettres-là ont été inspirées par quelqu'un qui est très jaloux. Pas mal, continue. Continue, fit le détective, en lançant une bouffée de tabac vers le plafond. Est-ce un concurrent de M. Avrier? Ça m'étonnerait. Ah ah! Ponctua Chantecoq d'un air un peu mystérieux. J'ai dit une bêtise? Faisait Météore, subitement inquiet. Non, pas du tout, je retiens seulement ton appréciation, reprenait le limier. Ça va même très bien, au contraire, les parles continuent. Météore allait se gonfler les joues, Chantecoq plaisanta. Ah, mais ça, quand as-tu donc perdu ta mauvaise habitude de transformer ton visage en baudruche, comme si tu voulais donner l'impression que tu as une fluxion, ou si tu te préparais avec une paille à lancer les bulles de savon. Oh, excusez-moi, patron, c'est un tic. Mais puisqu'il vous déplaît, je ferai l'impossible pour m'en corriger. Très bien, approuvait Chantecoq. Bon, non, patron, je vous disais donc que je ne croyais pas, contrairement à l'avis de M. Avrier, que ce soit un de ses concurrents, un de ses ennemis en affaires, qui se soit amusé à lui jouer ce tour-là. D'abord, il faudrait vraiment qu'il fût à la fois bien imprudent et bien canaille. Non, moi, je crois bien qu'il s'agit plutôt d'un amoureux évincé, qui, après avoir jeté les yeux sur Mademoiselle Avrier, aurait appris que celle-ci allait épouser le capitaine d'Alban de Monthermé, et en aurait conçu un tel dépit, une telle rage, qu'il aurait songé, afin d'empêcher cette union, à s'offrir le luxe, comment dirais-je bien, de se payer la fantaisie de faire ce qu'il a fait, ou tout au moins ce qu'il a tenté de faire. Alors, pour être bien sûr de l'impunité, il se serait fabriqué la tête plus ou moins approximative du capitaine Jacques Moret. Et voilà. Météore, mon garçon, reprenait Chantecoq. Autant la première partie de ton raisonnement me semble exacte, autant la seconde me paraît sujette à caution. Ah, vous croyez, patron? J'en suis sûr. Est-ce que tu as vérifié les dates des lettres anonymes qui figurent au dossier? Ma foi, non, patron. Négligence, Météore, grave négligence. Retiens bien ceci. C'est qu'en matière de police, la date ou les dates sont toujours d'une importance capitale. Et la preuve, c'est qu'il va me suffire d'une seule pour jeter par terre toute la deuxième partie de ton raisonnement. La date de la première lettre anonyme précède de plusieurs jours l'annonce des fiançailles officielles de Mademoiselle Avrier et du capitaine de Monthermé. Oh oui, je sais que tu m'objectes déjà que ces fiançailles peuvent très bien avoir été décidées depuis quelque temps et que par conséquent, avant que les journaux n'en parlassent, le bruit avait très bien pu s'en répandre, tout au moins dans l'entourage direct des Avrier. C'est bien cela que tu penses, n'est-ce pas? Ah oui, patron. Eh bien, mon petit bonhomme, tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude, plus loin encore jusqu'à l'épaule. Moi aussi, je le reconnais, j'ai été un moment un peu turlupiné par cette idée que tu viens de me développer. Aussi, une des premières choses que j'ai faites, ça a été de m'informer auprès de M. Avrier le plus adroitement possible si ses fiançailles n'avaient pas déjà été décidées depuis un certain temps. Eh bien, il m'a répondu que non, et qu'il avait été même fort étonné lorsque sa fille lui avait annoncé qu'elle aimait le chef de l'escadrille des Hirondelles et qu'elle était décidée à l'épouser. Donc, ne nous attardons pas sur le chapitre de jalousie. Évidemment, il doit y avoir de cela, mais peut-être l'attentat a-t-il un autre mobile. Dans lequel, je ne sais pas, je cherche. Évidemment, il y a là-dessous un problème psychologique très énigmatique. Très troublant. J'arriverai peut-être à le solutionner par la force du raisonnement. Mais cela demanderait beaucoup trop de temps. Et j'ai l'impression que dans cette affaire, il va falloir aller très vite. Si nous nous attardons trop à nous demander le comment et le pourquoi des choses, mais nous bafouillerons lamentablement. Ah oui, ça, patron, je ne puis que dire comme vous. Oh là là, ce que j'en ai du chemin à faire avant de vous arriver à la cheville. Allons, allons, encourageait Chantecoq. Pas de fausse modestie. Tu sais très bien ce que tu vaux déjà, puisqu'à plusieurs reprises, depuis quelque temps, je t'ai déclaré que j'étais content de toi. Et pour te faire ce compliment, il faut vraiment que tu le mérites. La fausse infirmière se rengorgea, souffla. Mais frappant un grand coup de poing sur la table, Chantecoq s'écria: Allons, bon, il va encore se gonfler les joues. Et la prochaine fois, je te ferai camoufler en marchant de petits ballons. Je suis sûr que tu seras tout à fait dans la peau du bonhomme. Bon, mais avec tout cela, tu ne m'as pas répondu à la seconde question que je t'avais posée. Comment, tu as déjà oublié? Me ferais-tu regretter de t'avoir adressé des félicitations? Oh, patron, excusez-moi, j'y suis. Vous m'avez demandé si je n'avais rien remarqué d'anormal dans la façon dont les lettres anonymes avaient été tapées. Oui, c'est cela. Oui, patron, j'ai remarqué quelque chose, c'est que partout la lettre R avait été reprise à la plume. Bravo, très bien, mais t'es-tu demandé pourquoi? Ma foi, non. Tu as eu tort, Météore, car quand on se rend compte d'un effet, il faut toujours s'efforcer de remonter à la cause. Eh bien, ce que tu as négligé, moi, je l'ai fait. Oh, ça ne m'étonne pas de votre part. Oui, tout à l'heure, avant que M. Florent Tavrier n'arrive, je me suis amusé, à l'aide d'un ingrédient spécial, à faire disparaître les traces d'encre qui recouvraient la lettre originale. Et je me suis aperçu que, sans doute par suite d'une avarie arrivée à la machine, la lettre R remontait un peu au-dessus de ses voisines. Oh, ça, patron, c'est épatant. Il ne nous reste donc plus, continua Chantecoq, qu'à découvrir la machine qui est atteinte de ce que j'appellerais une légère infirmité. Nos patrons, ça va pas être commode, car je vois pas obligé d'examiner toutes les machines à écrire qui existent dans Paris. Mon cher secrétaire, souriait le roi des détectives, soyez persuadé que cela n'a jamais été dans mon intention. D'autant plus que je crois savoir, à moins d'une erreur toujours possible, où se trouve cette machine. Pas possible. Affectant un ton comiquement sévère, Chantecoq se leva et, tout en envoyant un nuage de fumée à la figure de la fausse infirmière, il lui dit: Oh, ça, mademoiselle Constance, est-ce que j'ai l'habitude de vous raconter des bobards? Oh, patron, patron, oh, ne croyez pas que j'ai jamais eu une telle pensée. Allez, maintenant, assez parlé, envoie Pierre chercher un taxi. Et il martela: Point de direction, le docteur Ramet. Malgré lui, Météore se gonfla les joues. Chantecoq ne le vit pas, car il était occupé à ranger dans son portefeuille les quatre lettres anonymes que lui avait remis M. Avrier. La jeune secrétaire reprenait: Patron, sans flatterie, laissez-moi vous dire que chaque jour, vous me remplissez d'admiration. Mais pourquoi donc, vil flagorneur? Mais jamais vous ne vous embarrassez de rien. Et manquerait plus que cela. Lorsque vous tombez sur un bec de gaz, on dirait qu'au lieu de vous démonter, ça vous émoustille. Mais c'est comme cela que cela doit être. Et ainsi, et tout à l'heure, moi, si j'avais appris que j'étais grillé et que l'ennemi savait que vous deviez vous camoufler en industriel anglais pour pénétrer chez M. Avrier, J'aurais été littéralement empoisonné, je me serais demandé que faire. Eh bien, vous, pas du tout. En 5 secondes, en moins de temps qu'il en faut pour le dire, vous vous décidez. Je ne peux pas être le constructeur Robertson, eh bien, je vais être le docteur Ramey. Mais on vous dirait qu'il faut vous transformer en Poincaré, que ça ne vous gênerait pas plus que de bourrer votre pipe. Ça, c'est prodigieux. Et je n'ai pas pu m'empêcher de vous le dire. Chantecoq se levait, se dirigeant vers la fauche cheminée. Il lui dit, tout en lui frappant sur l'épaule, « Vois-tu, Météore, je suis un type dans le genre des chats. Quoi qu'il m'arrive, je retombe toujours sur mes pattes. » Une demi-heure après, quelle n'était pas la surprise du valet de chambre du docteur Ramey, lorsque, ayant répondu à l'appel de la sonnerie de l'extérieur, il aperçut, en ouvrant la porte, son propre patron flanqué d'une infirmière. Littéralement ahuri, il s'écriait « Ah, c'est vous, monsieur le docteur! Mais je vous croyais encore dans votre cabinet de consultation. » Le faux médecin eut un haussement d'épaule et, faisant signe à Météore de le suivre, il pénétra dans l'antichambre et se dirigea vers le salon dont il ouvrit lui-même la porte et où il entra avec son secrétaire qui, à l'exemple de son maître, incarnait remarquablement son personnage féminin. Le domestique en demeura tout pantois. « Ça, voyons, est-ce que j'aurais des visions ?» se dit-il. « Il n'y a pas 3 minutes que j'ai accompagné le dernier client. Jamais le docteur n'aurait eu le temps de descendre, d'aller chercher une infirmière et de la ramener. Oh, certainement, il y a là-dessous quelque chose de pas ordinaire. » Il s'en fut immédiatement frapper à la porte du cabinet de son maître. Celui-ci lui répondit aussitôt « Entrez !» Lorsque le valet de chambre se glissa dans la pièce, le docteur Ramey, assis devant son bureau, parcourait un journal du soir. « Ah, tiens, monsieur le docteur est là !» s'exclama le brave serviteur. « Eh oui, Prosper, je suis là. Pourtant, monsieur est bien entré il y a un moment à peine dans le salon avec une infirmière. « Moi ?» s'exclama le médecin. Mais oui, monsieur le directeur, vous, affirmait Prosper avec l'ardeur d'un confesseur de la foi, se rappelant le coup de téléphone qu'une heure auparavant lui avait lancé le roi des détectives, le docteur Ramey se dit c'est encore un tour de ce diable de Chantecoq. Et affectant une certaine impatience, il fit Bon, ça va bien, Prosper, laissez-moi. Le valet de chambre se retira, convaincu qu'il avait été l'objet d'une hallucination. Dès qu'il eut tourné les talons, le médecin s'en fut ouvrir la porte qui faisait communiquer directement son cabinet avec son salon. Et, s'apercevant en même temps que l'infirmière était là, il s'exclama « Oh, je ne m'étais pas trompé. Ah, ça, mon cher Chantecoq, mais quelle bonne blague me ménagez-vous encore ?» Cette fois, déclarait le détective en serrant la main que lui tendait son ami, il s'agit d'une affaire très sérieuse. Oui, cette infirmière n'est autre que mon secrétaire. Ma parole, s'exclama le médecin, je ne l'aurais jamais reconnue. Météore eut un sourire de satisfaction. Il allait répliquer, mais le docteur Ramey proposait. Les retournons dans mon cabinet, là, je suis sûr que nous ne serons pas dérangés. Tous trois s'enfuirent dans la pièce voisine. Chantecoq et Météore s'installèrent dans 2 fauteuils en face du bureau, derrière lequel s'assit le docteur. Mon cher ami, attaquait le roi des détectives, je viens vous demander la permission d'utiliser pendant quelques heures votre personnalité. Il me semble, plaisantait le thérapeute, que vous êtes déjà passé de ma permission. Oui, mais avant d'aller plus loin, j'ai voulu vous mettre au courant de ce que je comptais faire. Mais c'est très chic de votre part, appréciait le docteur Hamet. Mais d'abord, je suis certain que vous ne me ferez pas jouer un rôle qui risquerait de compromettre ma réputation d'homme de médecin. Alors, vous pouvez être absolument tranquille à ce sujet. Vous n'avez pas l'intention de rédiger des ordonnances ni de donner des consultations. Oh, pas le moins du monde. Alors, tout va bien. Bon, en deux mots, voici. Vous êtes certainement au courant de ce qui se passe chez vos amis à Vrier. Oui, parfaitement, Florent m'a tout dit. Eh bien, monsieur Avrier m'a chargé de découvrir l'auteur de l'attentat dont sa fille a failli être victime. Il ne pouvait mieux choisir. Merci. Et je suis sur une piste, et afin de m'assurer qu'elle est bonne, j'ai besoin de pénétrer ce soir chez les Avriers avec mon secrétaire, sans que personne en dehors du maître de la maison ne se doute, comme on dit dans les tragédies, de ma présence en ces murs. Alors vous êtes le médecin de la famille, alors, cordialement le docteur Ramey interrompait. Bon, j'ai compris, mon cher, inutile d'en dire plus long. C'est entendu. Une objection, cependant, faite. Si j'étais appelé auprès de Madame Avrier, mademoiselle Avrier. Oh non, son père m'a dit qu'elle allait bien, beaucoup, beaucoup mieux. Je sais, mais enfin, elle peut avoir une rechute. Bien, ne venez pas entre 19 et 20 heures, déclarait Chantecoq. Ensuite, la maison vous sera largement ouverte. Je m'en voudrais de priver cette pauvre jeune fille des soins d'un maître tel que vous. Et, sans avoir l'air de rien, le détective ajouta: Elle est sans doute assez fragile, n'est-ce pas? Elle? Oh non, pas du tout, protestait le médecin. À part quelques maladies d'enfant, jusqu'à ce jour, je n'avais jamais eu l'occasion de la soigner. Elle est au contraire très robuste. Nerveuse seulement? Même pas. Allons, tant mieux. Oui, ce qui est même extraordinaire, c'est que ce matin, elle était dans un tel état de prostration que j'avais diagnostiqué un début de catalepsie. Et voilà que son père me téléphone cet après-midi qu'elle avait repris son sens et qu'elle allait aussi bien que possible. Alors, tout va bien, disait le détective. Je ne connais pas mademoiselle Avrillet, je ne l'ai jamais vue. Il paraît qu'elle est charmante, exquise. Mais je vous quitte, mon cher docteur, je ne voudrais pas faire poser ce bon monsieur Avrillet qui doit m'attendre avec une vive impatience. Alors, demandait le docteur Ramey à Chantecoq, vous croyez que vous allez démasquer le misérable qui a voulu déshonorer cette chère Martine? Avec un accent plein de force tranquille, le roi des détectives articula: Si je le crois, mais j'en suis sûr.